les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans les ondes buissonnières. Aujourd'hui, on va se mettre à l'écoute d'un monde vécu, comme disait le philosophe et théoricien de l'écologie politique André Gorce. Un monde vécu, c'est un documentaire proposé par Yves Robic et Claire Gatineau et que nous proposent Radiola et la CSR, l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles, dans le catalogue duquel on puise régulièrement pour ses ondes. Un monde vécu, donc, un documentaire qui part à la rencontre de celles et ceux qui, je cite, « ne veulent pas se laisser déposséder par la logique de l'agriculture industrielle ». Des paysans, des jardiniers, des biologistes, des entrepreneurs même, des philosophes qui se mettent en mouvement. Bonne écoute.
Partir par là-bas.
Ouais, on va regarder.
Balader par là-bas.
Ouais, j'aurais bien essayé de le voir, mais... On peut remonter par là-haut, juste voir. Ouais. On monte en haut de la butte, on va voir, peut-être on aura un point de vue... Il faut juste penser à ne pas perdre notre chemin.
Oui, c'est ça.
Parce que...
Quand j'ai une graine dans la main, là, je ne peux pas juger, en regardant la graine, de savoir si ça fera une belle plante ou non. Et pourtant, les paysans, ils ont toujours échangé des semences, ils savaient ce qu'ils échangeaient. Mais comment ils le savaient? Parce qu'ils connaissaient la personne avec qui ils échangeaient.
Moi, je propose alors qu'on redescende.
Oui,
mais là, en lisière de zone, tu vois, il y a plein de...
Ce n'est pas à partir de la description de la plante ou de la graine qu'on définissait la qualité de la marchandise échangée. À l'époque, là, ce n'était pas une marchandise, c'était un organisme vivant. C'est par les relations humaines entre les gens. C'est les savoirs populaires.
Un monde vécu. Un documentaire de Yves Robic et Claire Gatineau.
Et pourtant, les paysans, ils ont toujours échangé des semences, ils savaient ce qu'ils échangeaient. Mais comment ils le savaient? Parce qu'ils connaissaient la personne avec qui ils échangeaient. C'est d'échange entre personnes qui se connaissent, il n'est pas anonyme. Ils savaient si c'était un bon sélectionneur, un bon cultivateur, ou s'ils ne le connaissaient pas directement, ça venait peut-être du canton à côté. Ils connaissaient la notoriété du paysan. Et puis tout d'un coup, le marché s'est développé et on a eu des semences qui venaient de l'autre bout de la France, voire d'un pays à côté. La notoriété du paysan n'existait plus. Donc là, c'est la loi qui est arrivée, la réglementation. Juridiquement, je ne peux vendre des semences que si la variété est inscrite au catalogue. C'est quoi la variété? C'est la définition de la marchandise que je vends. Telle semence, telle graine appartient à telle variété. Donc celui qui l'achète, il est rassuré, il sait que c'est telle variété, ça a été contrôlé de manière officielle, etc. Et c'est quoi la variété? C'est tout sauf ce qui est varié.
Vous travaillez à deux dans la ferme?
Non. Non, je suis... C'est mon gamin qui est en vacances, mais sinon je suis tout seul.
Ah oui, d'accord.
Je suis tout seul et je ne suis jamais tout seul. Vous un café?
Ah, moi je veux bien, oui.
J'ai entendu hein, qu'il y avait que les choses sont en train de bouger à ce niveau-là sur la question de la propriété des semences, que ce soit pour les semences, pour la semence des plantes, des céréales en l'occurrence, que ce soit pour l'élevage. On parle qu'on perd de la biodiversité en permanence et on veut, à côté, sélectionner. Il y a une ambivalence énorme. Et rien que ça, moi je me dis, de toute façon, c'est peut-être quand on sera acculé qu'on s'organisera pour se défendre. Mais aujourd'hui, les lois... Enfin, moi je ne peux pas, j'habite trop loin de Bruxelles, je ne peux pas suivre ça à la carte. Mon métier, ce n'est pas d'être législatif, c'est d'être paysan. Je fais mon métier de paysan, comme il me semble bon le pratiquer, dans une approche d'une réappropriation de la vie, et pas que de production, mais de qualité d'abord, quoi. Donc quand on fait la semence de blé ancien, ou qu'on recherche des variétés plus adaptées à la région, au terroir, etc., on fait ce que 10 000 ans de paysans ont fait. Et je ne vois pas qui va m'empêcher de faire ça. La nouvelle semence, tip-top, elle est 5 fois plus élevée que les autres, que les anciennes. Ils arrivent soi-disant avec des hybrides. Mon collègue, il me dit, tiens, je vais essayer du blé, mais pas n'importe lesquels. Tout à fait l'opposé de moi. Moi, je retourne 100 ans en arrière. Lui, il prend un nouveau blé. Il dit, oui, mais les semences coûtent cher. C'est 250 euros de l'hectare. Il est temps que ça donne plus. Mmh. Résultat des courses, au moment de la récolte, il n'a pas plus de rendement avec un autre.
Hybride, c'est ceux qu'on ne peut pas replanter, c'est ça?
Oui.
Ouais. Donc du coup, en plus, il doit racheter les semences.
Ah ben oui, il est obligé de racheter chaque fois les mêmes semences, des nouvelles semences. Bon, maintenant, il n'en met plus du blé, il a compris. Mais c'est de dire dans quoi ces multinationales nous font toujours croire que c'est eux qui savent, qui sont les meilleurs, qui sont les plus poussés. Et je reste très méfiant, comme je dis, il est dit souvent. Mon grand-père, qui n'avait pas fait d'études, qui est arrivé après la guerre en Wallonie, il accueillait ses représentants qui avaient fait des études avec sa fourche, en disant « vous êtes plus malin que moi, vous venez pour me rouler ». Et aujourd'hui, deux, trois générations plus tard, on est là les bras ouverts, on sait plus ce qu'il faut faire. C'est eux qui viennent nous dire, nous les jeunes agriculteurs, comment il faut faire. Si je suis paysan, je l'ai toujours dit à mon père, moi je veux pratiquer l'agriculture paysanne pour avoir ma maîtrise. Mon autonomie. Je ne veux pas dépendre des banques, même si on y a toujours dépendu un petit peu, des assurances et des agro-industriels. Donc comment on développe une agriculture autonome quelque part? Pour moi, elle est plus importante aujourd'hui, cette agriculture-là, que l'agriculture bio. Parce qu'on a aujourd'hui une agriculture bio complètement dépendante de d'une certaine agro-industrie, d'un système. Et ça... L'enjeu, il est là. Et faire ces semences soi-même, faire cette recherche des semences, pour moi, c'est un symbole de dire on nous a désapproprié nos savoir-faire et nos semences, réapproprions cela. Et là, nous pourrons construire librement une agriculture qui peut être une agriculture pour nourrir notre humanité.
Vous avez
Bonjour.
Une route difficile.
On est venu en train, en fait.
Ah oui.
Ouais.
Je crois qu'il fait encore bon dans la salle. Eh bien, si vous voulez, on peut aller. Je vais aller voir comment c'est dans la salle.
On vous attend ici?
Non.
Ah non, vous suivez.
Vous pouvez voir. Vous pourrez voir l'entre des.
Oui.
Voilà. On a fait un peu de feu parce que la maison est hyper
propre.
Et qu'on travaille
à ranger les graines. Vous voyez, on nous fait un groupement d'achat
oui.
de graines. Toute cette armoire, ouais. ça représente, et ce qui est derrière, l'écran.
Oui.
Et puis là, ça représente plus de 6000 tiroirs de semences donc, pour promouvoir la diversité.
Voilà. Parce que c'est quand même... un endroit très frais.
On peut se servir.
Super, merci.
De café. Nous étions quelques militants, syndicalistes, militants ouvriers, animateurs pour la citoyenneté, comme il y a dans beaucoup d'endroits, la formation continue, l'éducation permanente. Et donc, on avait un mouvement qui s'appelait les fraternités, qui s'appelle les fraternités ouvrières, qui existait depuis 1969. En 1978, quelques militants syndicalistes se sont dit on commence à avoir beaucoup de chômage, des pertes d'emploi à cause de la délocalisation du textile. C'était ici essentiellement une ville textile aussi, comme Roubaix, quoi. On s'est donc dit, c'est vrai, c'est une bonne idée de faire du jardinage. D'abord, ça rapporte un petit peu, bien sûr, aux familles. C'est meilleur pour la santé. La préoccupation environnementale, donc c'était, on ne mangera plus de poison, et donc on n'utilisera pas de poison dans notre potager. Donc une ville ouvrière, comme notre rue, ce qu'on appelle des maisons ouvrières, avec un petit potager, voilà. Donc les gens avaient de quoi s'occuper un peu, de faire pousser des bonnes choses dans leur jardin. On a commencé à 15, et puis on a été très vite jusqu'à 1200 membres, donc de personnes qui souhaitaient à la fois acheter leurs semences en commun. On a commencé donc à faire des groupements d'achat déjà dans les années 70, puisqu'on disait, tiens, c'est un moyen déjà de lutter contre la crise. Il y a toujours crise, mais celle qui avait été annoncée, il a été très visible dans une ville comme ici, puisque le textile, il est parti.
Parce que le développement de cet intérêt pour les potagers, c'était lié à la fermeture des usines textiles ?
En partie aussi, oui. Qui est-ce qui va aller contrôler ? Bientôt, ils vont venir contrôler dans notre lit. Si cette bêtise de loi européenne sur les semences arrivait à son terme à un moment donné, c'est une menace qui plane, mais je crois pas que c'est faisable, quoi.
Et quand forme de boutade, vous disiez à l'instant, ils vont venir contrôler dans notre lit ici, vous avez vent justement de tout ce question, enfin de toute cette tendance d'essayer d'empêcher
bien sûr d'essayer d'empêcher la production de semences paysannes, par exemple. On est tous en train d'en parler parce qu'en fait, là, c'est exactement la même chose et on parle de ce qui se passe pour les paysans qui produisent quand même une bonne partie. Nous, on ne produit pas de blé, on ne produit pas de céréales pour faire du pain, mais on en a besoin.
Et du coup, vous pensez qu'il y a un aspect politique aussi dans votre démarche ?
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que les gens qui ont décidé qu'ils n'emploieraient plus de poison, C'est une révolution, c'est le départ d'une révolution dans leur vie.
Oui.
Oui. Et donc de réflexion sur tout le reste. C'était ça aussi l'origine, hein, de comment se mobiliser quand on n'a plus la lutte ouvrière dans l'usine.
Donc je vous ai expliqué. On met des arbres du côté nord qui sont plus hauts pour éviter que le vent froid ne rentre et pour pouvoir avoir des fruits éventuellement qui ne poussent pas toujours en Belgique. Si vous regardez au-dessus de votre tête, il y a plein de figues. Et donc il y a moyen d'avoir des figues en Belgique. Elles seront mûres début octobre. Elles sont donc en retard cette année. Elles ont un mois de retard. Mais c'est dû au fait que tous les fruits sont en retard cette année.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'on était des discoureurs avant aussi. On avait aussi des idées, on a des idées de gauche et on les partageait largement. Mais maintenant, on sent que c'est toute la vie qui fait prendre conscience aux gens qu'il y a une forme d'exploitation.
Comment on se réapproprie en fait un certain nombre de choses ?
Oui. Et comment on reprend possession de soi, ce que vous avez dit, c'est prendre possession de soi-même, quoi. Mais en même temps, se rendre compte qu'on est très bien avec les autres.
Bonjour, Claire et Yves. Bonjour. Document avec radio.
Ah ben, c'est là.
Ouais.
Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle une lande. Et ici, une lande humide. Humide parce que le sol est assez marécageux. Et donc, la lande, c'est une végétation qui est dominée par un groupe de plantes qu'on appelle les éricacées. Et donc, toutes les plantes qu'on voit ici dépasser de la neige, c'est ce qu'on appelle la bruyère. Mais ce n'est pas une vraie bruyère, c'est la fausse bruyère qu'on appelle la calune. Et donc, ici, c'est une zone qui a été de forêt qui, historiquement, a été défrichée et qui a été entretenue, notamment... par pâturage et par brûlage aussi. Donc ces landes-là étaient souvent brûlées. Les gens rassemblaient les cendres de la végétation en faisant des espèces de bourrelets comme ça, ce qu'on appelait les sartages. Et alors les matières minérales issues de la combustion étaient utilisées pour planter une année de céréales, par exemple, souvent du seigle. Et puis alors là, ils avaient droit à une récolte. Et puis le terrain était tellement pauvre qu'il laissait le terrain se réenfricher. Et donc ce pâturage-là, plus un brûlage tous les 10 ou 15 ans, on crée ces ouvertures, mais qui sont des ouvertures qui sont artificielles, parce que le milieu naturel spontané, c'est ce que vous avez derrière vous, c'est la forêt. Et donc évidemment, une des questions qu'on nous pose, c'est pourquoi investir de l'argent dans la création d'écosystèmes qui sont des reliques des glaciations ? Parce que c'est les premiers écosystèmes qui vont disparaître avec le changement climatique, si on va dans le sens d'un réchauffement. Ce qu'on crée, c'est de la résilience environnementale. Et donc en augmentant la biodiversité avec la restauration qu'on met en place, mais au moment de ce changement, il y aura sûrement l'une ou l'autre espèce qui en profitera et qui s'installera. Et ça a beaucoup plus de chances de se passer que si on réduit la biodiversité, parce qu'on parle notamment de l'épicéa. Ben l'épicéa être une essence forestière qui pourrait, en cas de réchauffement climatique, ne plus être en station sur une bonne partie des endroits où il est planté. Si vous avez 10 ou 15 essences d'arbres différentes dans la forêt, et s'il y en a 3 qui sont touchées par le réchauffement, ben il y a les 12 autres qui peuvent... Enfin, j'ai une vision qui est assez pessimiste de l'évolution du monde. Je pense qu'effectivement, à court ou à moyen terme, on va aller face à un mur, donc à une espèce d'effondrement de ce qui existe actuellement. On parle beaucoup de transition, etc. Mais la transition, c'est un peu se préparer au changement. Mais je ne pense pas que le monde va être transitionnel globalement, qu'on va se dire qu'on va être assez rapide, que pour ne pas encaisser l'espèce d'écroulement qui se prépare par rapport au mouvement global, on se dit, ok, c'est pas s'isoler, c'est pas le rêve de l'autarcie, de la communauté qui se dit le monde est trop moche, moi je crée un espèce de mur, et puis je côtoie des gens qui pensent comme moi, et je crée un espèce de vase clos par rapport au monde. C'est plus chercher des alternatives et se dire, au moment où elles seront très utiles, et au moment où ceux qui ne les reçoivent pas maintenant parce que c'est trop étranger à leur système de pensée verront l'urgence que ça est de prendre ça, mais ce sera à prendre. Et peut-être que ces alternatives-là seront inutiles, mais dans tout le panel de diversité d'alternatives qui seront créées, il y en aura certaines qui seront utiles et qui permettront... moi j'ai toujours une vision un peu de biologiste, c'est-à-dire plus il y a de diversité dans un système, et plus quand ce système est perturbé, il y a la chance d'avoir des éléments du système qui soient adaptés au changement qui se passe.
C'est par là, du coup. Les numéros, le 39, ça va être par là, ça va être là. Donc c'est ça, 23, je cherche le 39.
Madame la Mère, ça va être clair. Ça va, tu enregistres ?
Bonjour. Ah, c'est quelqu'un qui vient au jardin.
Oui.
La petite herbe, elle commence à fleurir.
Et Juliette n'a pas encore fleuri.
Je pense que c'est là. Ok, merci.
Aujourd'hui, on doit se préparer à une crise majeure. Une crise majeure. Comment se préparer à une crise majeure? C'est développer des germes dans cette crise pour pouvoir rebondir. Et comment peut-on rebondir? Eh bien, c'est justement en essayant au niveau local de pouvoir redévelopper une solidarité, redévelopper de l'intergénérationnel, redévelopper des économies locales, redévelopper par exemple une monnaie locale. C'est toutes les idées de villes en transition. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je réfléchis sur comment réimaginer une autre manière d'habiter.
On va avoir le jardin pour nous tout seuls ?
Oui.
Aujourd'hui, nous, on essaye de développer des notions de micro-quartier durable, d'habitat groupé, de liens entre les différents quartiers, de faire en sorte que, on ait comme ça petit à petit un réseau qui se développe dans la ville. Le quartier est un très très beau laboratoire, je dirais, laboratoire d'expérimentation de ces nouvelles possibilités de vivre en adéquation avec notre environnement.
Alors en fait, au début des années 2000, les habitants du quartier ici, quartier Rancefort, Bad-Molenbeek, ont commencé à se mobiliser parce que l'endroit où on se trouve, donc l'endroit des jardins urbains, était à l'époque complètement laissé à l'abandon. Et donc c'était devenu un véritable dépotoir. Il y avait des voitures brûlées, des meubles, des déchets, enfin bon, il y avait des poubelles, toutes sortes de choses. Et donc les habitants ont commencé à dire « nous on a envie d'autre chose et pourquoi pas un jardin ?» Et donc l'idée est arrivée à ce moment-là, des habitants du quartier eux-mêmes et la SBL La Rue qui se trouvait déjà dans le quartier à l'époque, puisque la SBL est dans le quartier depuis 35 ans maintenant, a entendu cet appel des habitants et s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner là-dedans et comment voir pour faire quelque chose vraiment de chouette avec eux. Et c'est comme ça que l'idée d'un jardin collectif est arrivée. L'objectif premier, c'est plutôt d'avoir un espace de rencontre pour les habitants avec un objet commun qui est de jardiner. Mais cet objectif permet de créer beaucoup d'autres choses, notamment de créer du lien entre les participants et que donc petit à petit, il serait géré uniquement par des habitants, que la SBL pourrait commencer à prendre plus de recul.
On a été embrigadé, on a été formaté pendant, 3-4 générations dans un capitalisme débridé, avec deux guerres entre-temps. Comment repenser aujourd'hui et quel temps il va falloir mettre pour pouvoir réimaginer un système basé sur le concept de bien commun, quoi, tu vois, sur le concept du partage plutôt que de l'appropriation l'appropriation de l'énergie, l'appropriation des terres, l'appropriation de l'air.
On ne parlait plus vraiment des jardins, là. Il y en a de plus en plus de jardins urbains.
Oui.
J'ai vu sur une carte, j'ai vu un plan de Bruxelles avec des tuc, 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 tuc.
Ah oui. Toi, t'es arrivé comment et tu fais quoi là du coup maintenant ?
Ben, moi, je suis arrivé très vite parce qu'en fait, le projet a été lancé par deux personnes qui habitent ici le long du champ. Ouais. donc qui se sont dit après 2 ans, mais c'est un peu dommage que cet espace, qu'on n'en fasse rien. Pendant 2 ans, ça a été en jachère. Et une troisième personne qui habite pas loin, dans le quartier, connaissait une ASBL qui s'appelle Le Début des Haricots, et ils ont pris contact avec eux. Et puis ensemble, ils ont pris contact avec la commune et les propriétaires, les propriétaires, c'est le logis, donc c'est la société coopérative de logement, qui nous prête le terrain.
Ils sont en face.
Tu les vois ?
Ben, j'ai vu passer les drapeaux.
Mais c'est peut-être pas sûr qu'ils bloquent... Tu les as vus sur la route ou sur les...
Ben, j'ai vu au loin passer des drapeaux, donc à mon avis, ils sont sur le boulevard. Quoi. Tu vois, toutes les bagnoles tournent. C'est que... Attends, avançons.
Petit fourre-tout.
Bon, vas-y encore une fois, parce que j'ai pas beau.
Encore une fois, j'y vais, je parle.
Ouais, c'est bien.
On a l'impression que si on préserve son petit coin, hein, son petit jardin chez soi, quoi, le credo, c'est un peu, si j'agis à mon niveau, hein, donc je mange des légumes bio, je prends mon vélo, je trie mes déchets, et si tout le monde fait comme moi, eh ben, ça ira, ça sera formidable. Hein. Mmh. C'est un peu le credo des pacifistes en 1900, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis pacifiste, je refuse de faire la guerre. Et si tout le monde fait comme moi, il n'y aura pas la guerre. Mmh. L'ennui, c'est que tout le monde ne fait pas comme moi. Mmh. Hein.
Il y a des mots qui sont très parlants. L'amélioration des plantes, c'est la sélection de l'individu élite et éradication des hors-types. Pour ceux qui ont vécu, et moi je suis la génération qui est arrivée juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça rappelle des mauvais souvenirs.
Oui, oui, tout à fait.
Ça s'appelle le projet eugéniste, qui est un projet qui existe toujours. Il ne faut quand même pas oublier que tous les chimistes de l'industrie allemande qui ont financé et développé le nazisme se retrouvent aujourd'hui chez Monsanto et chez tous ces gens-là. Quoi. Je veux dire, il y a une continuité là, directe qui est passée par des personnes qui ont quitté l'Allemagne et qui sont parties aux États-Unis, en Amérique du Sud, et qui aujourd'hui sont les gens qui ont pris le commandement avec la même idéologie de cette industrie chimique. On voit très bien le continuum historique dans l'amélioration des plantes.
Parce que ça serait intéressant de réécouter ou de relire les écrits corsaires de Pasolini, parce qu'il dit que le fascisme n'a pas réussi à éliminer la culture de l'individu. Hein. Par contre, la société de consommation réussit à éliminer la culture. Parce que ce n'est pas qu'elle a uniformisé la consommation, uniformisé la tendance, la manière d'être. C'est vrai que tout le monde pense un peu la même chose. Hein. Mmh. Du coup, on dit qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Mmh. Mais surtout, il a réussi à détruire la culture que le fascisme n'avait pas réussi à faire. Mais qui était son but aussi. Mmh. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas persuadé de ça.
De quoi ?
Qu'on doive activer la marche. Mmh. Parce que, pour moi, le mécanisme de prise de conscience, il se fait dans les crises, dans la crise. Si tu veux, aujourd'hui, on a encore l'illusion de croire qu'on peut continuer comme on a commencé. Et c'est ce que la communication te dit. Bah, si tu veux, bon, on parle effectivement de crise, on parle... La crise, c'est quoi ? Une crise, c'est quelque chose qui est temporaire. Hein. Aujourd'hui, on parle... Ça fait 30 ans qu'on parle de crise. Le mot crise a perdu son sens. Parce qu'une crise, c'est quelque chose qui passe. Et aujourd'hui, elle ne passe pas. Je crois qu'on n'est que les gens n'ont pas encore conscience. Ils n'ont pas conscience, ils croient que les choses peuvent encore continuer. Et donc, ce n'est que quand au moment où il va y avoir vraiment, véritablement un écroulement, que les gens vont se solidariser, changer aussi. Donc, si tu veux, quelque part, est-ce qu'il faut anticiper, est-ce qu'il faut pousser les gens à changer sans qu'ils en soient quelque part, oui, contraints, tu vois?
Parce qu'on discute avec quelques copains, on lit des articles dans les journaux, on rencontre des gens, que ça y est, un mouvement est en route. Et ça, je crois qu'il y a une certaine naïveté là-dedans. Quoi. Je crois que, hein, qu'un mouvement, c'est beaucoup, un mouvement de fond, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Tu sais, les mouvements militants un petit peu marginaux pensent toujours ça, que tout ça va s'agrandir, va grandir. Et bon, peut-être parce que je suis un vieux con, j'ai 66 ans, donc je me rends bien compte que j'ai vu fleurir ce genre de mouvement. Mmh. Tu sais, dans les années 70, on était persuadé, là, au moment de Buget-Cobaye, qu'on avait tellement raison qu'il y aurait plus, qu'on allait arrêter les centrales nucléaires. Résultat, la France, c'est le territoire du monde où il y a le plus de centrales nucléaires au mètre carré, quoi. Mmh. Au kilomètre carré, hein, mmh. Disons. Hein? Alors qu'on était persuadé que grâce à notre mouvement, hein, il y a eu même à Creys-Malville un mort, Vital Michelon, j'ai retenu son nom. Ça date de 75, un truc comme ça.
Hey. Au scout.
Ça va? Attention, parce qu'il raconte des salades parfois. Non, il les plante, pardon.
Ah, salut. Les gens comme nous qui voudraient cultiver des salades ou des tomates ou des courgettes, on serait obligé d'acheter des graines standardisées.
Qui leur appartiennent en général.
Qui leur appartiennent, voilà, c'est ça qu'eux vendraient. Donc c'est vraiment, c'est fondamental, quoi. Ils veulent être les seuls à fournir les semences dans le monde, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, ils veulent s'approprier le vivant. Mmh. C'est comme les gens qui veulent absolument que l'eau soit privatisée, par exemple. Mmh. Et qui disent que sans ça, on n'arrivera à rien. Mmh. Il faut absolument lutter contre ça, oui. Pour moi, c'est des salauds, hein, ces gens, mais des salauds intelligents, quoi. Mmh. Quand tu vois le nombre de pétitions aussi, enfin, il y a vraiment un vrai mouvement pour le vivant, les graines, etc.
Pour les plantes, ils vont rendre obligatoire l'enregistrement de toutes les personnes qui produisent les semences. Parce qu'il y a un risque sanitaire. C'est évident que c'est dangereux pour la santé des gens. Jusqu'à maintenant, n'étaient enregistrés que ceux qui produisent des semences destinées à être commercialisées. Là non, toutes les personnes qui produisent des semences. Ils vont enregistrer, demander à ces personnes d'enregistrer tous les échanges de semences, c'est-à-dire toutes les semences qu'ils achètent et toutes les semences qu'ils vendent, qu'ils échangent. Et de garder ces enregistrements. Et ils vont le demander, vous direz, les gens, ils ne vont pas le faire. Ah, mais s'ils ne le font pas, ils n'auront pas les primes de la politique agricole. S'ils ne le font pas, et on connaît déjà ça pour les animaux, moi, mes animaux, s'ils n'ont pas la puce électronique, je ne peux plus en vendre. Au niveau des plantes, la Commission européenne nous a déclaré, c'était le 18 janvier, là, dans une réunion de travail qu'ils ont fait ici, qu'ils sont en train de mettre en place un système de gestion électronique de tous les échanges de semences au niveau européen. Avec les mêmes systèmes de contrôle des populations que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que s'ils décident que tel type de semence du jour au lendemain doit être interdite et détruite, ils ont tout de suite les adresses de tous les gens qui les ont. Ils vont chez eux, ils les détruisent. Si tu ne les détruis pas, tu n'as pas accès au marché. C'est-à-dire qu'on a construit des outils qui ont une puissance de contrôle du monde vivant qui est extraordinaire. Et ça, c'est en train de se passer en ce moment sous nos yeux, au niveau réglementaire. C'est en train de se passer en ce moment sous nos yeux au niveau de la construction des outils informatiques, des logiciels et de la formation des gens qui vont contrôler tout ça, tous les animaux, toutes les plantes, tous les humains. Bien, il faut se rendre compte qu'en ce moment, on est en train de mettre en place les mêmes outils pour contrôler le monde animal, le monde végétal et le monde humain de la même manière. Thank you.
620 destination de Lyon-Part-Dieu. Ce train desservira les gares de Voiron, Bourgoin-Jallieu et Lyon-Part-Dieu 31 minutes. Les personnes n'ayant pas composé leur billet ou validé leur carte aura toute invité à se présenter spontanément au contrôleur lors de son premier passage dans le train. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage.
Bonjour, je cherche à accéder à la roseraie.
La roseraie, c'est ici en fait, c'est tout au bout de l'allée.
Je vais au bout de l'allée,
voilà.
D'accord, ok, merci.
Là, c'est la fin de la journée, et puis derrière, vous avez la conférence.
Mais la conférence n'a pas encore commencé.
Non.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait une AG, c'était pas...
C'est 9h ce matin. Ah ben non, c'est interne.
C'est ça, c'est interne.
C'est les membres de Dialogue
d'accord.
en Humanité.
Ah, ok.
Comme il y a des dialogues en humanité partout dans le monde,
merci d'être présent à cette agora qui démarre donc maintenant. Bien sûr, vous connaissez les règles du jeu, personne ne détient la vérité ou la parole, donc chacun est invité à s'exprimer dans la bienveillance. J'espère que les débats seront riches et vont produire beaucoup de valeur.
Tu as eu un verre de thé ? Tu veux pas un petit verre de thé à la menthe ?
Qu'est-ce qui se passe le jour d'après d'un crash financier mondial ? Ben, il se passe que pour tous les gens qui diront « Mais attendez, la richesse réelle, elle est du côté de la nature, elle est du côté des humains, elle est du côté des territoires, donc que l'on sache, le soleil est toujours là, la terre elle est toujours féconde, les êtres humains ils sont toujours présents, etc. » Donc, la vraie question à se poser pour éviter la panique et l'enchaînement catastrophique derrière, c'est comment les humains, les collectifs humains, évitent de céder à la panique, comprennent que la clé, c'est leur solidarité et le retour à ces richesses réelles.
Actuellement, ça part dans tous les sens. Donc il y a des initiatives, on l'entend, très généreuses. Manu t'en a parlé, il y a partout plein de choses. Mais il y a aussi une course de vitesse. Parce que pendant qu'on prend le temps, il faut prendre le temps pour faire ce que tu fais, d'aller voir les gens, de les rencontrer, de faire que les consciences évoluent, qu'on se désaliène de plein de choses. Pendant ce temps, les dégâts continuent de manière monstrueuse. Et moi, aujourd'hui, j'hésite à où aller, parce que quand on vient ici à un dialogue en humanité, on a plein de possibilités de se rallier à des gens. Je réfléchis en ce moment, je préfère faire un travail un peu d'introspection pour me dire où mettre l'énergie parce qu'il y a urgence. Et ce changement de société, ce changement dans lequel nous sommes, il est là. Hein. Tous les témoignages sont là pour concourir à dire la même chose. Pendant ce temps, les dégâts sont monstrueux, encore pire qu'avant et ainsi de suite. Comment en sortir ?
C'est ça qui m'intéresse. Un jour, j'ai eu la clé par un... J'amenais des pétitions, comme d'habitude. Je m'occupais d'un mouvement qui s'appelle Agir ensemble contre le chômage. Et comme d'habitude, nous faisions beaucoup de choses, des conférences, des pétitions. Nous voulions les transports gratuits, peu importe. Et nous avons affaire à quelqu'un dont je ne pourrais pas donner le nom, mais qui m'a donné la clé pour en sortir. Pour que nous, humains, nous arrivions un peu à sortir de ce schéma et sortir de cette servitude volontaire. Ben, c'est tout simple. Nous avons vu ce qui s'est passé dans différents pays qu'on qualifie d'arabes. Tunisie, Égypte, etc. Il faut faire la même chose. C'est tout simple. Et plus nous attendrons pour comprendre cela, c'est-à-dire descendre dans la rue, plus ce sera violent. C'est-à-dire ce sera d'autant moins violent que nous descendrons vite dans la rue, que nous arrêterons de discuter.
C'est marrant parce que j'étais précisément en train de penser à ça et aussi à Taureau. Quand il a fait de la désobéissance civile en arrêtant de payer ses impôts, parce que ses impôts permettaient de continuer à financer la guerre.
En fait, aujourd'hui, on a des outils, on a des initiatives, on a des gens qui sont en mouvement. Et c'est comment toutes ces échelles, avec ces liens entre l'agriculture, l'économie, l'écologie, l'art, comment on continue à faire mouvement et à continuer aussi à le mobiliser à un plan aussi... il nous faut du courage, en fait. Je pense qu'il nous faut du courage individuel et collectif. Sauf que le courage collectif, on ne peut pas le faire à détriment de l'individu. Il faut que les individus puissent dire « Ouais, j'ai envie, j'ai le courage, j'ai ce courage-là, ce cœur, il me parle et j'ai envie de le faire. »
Moi, je m'appelle Denis et la question que je me pose, c'est bon, est-ce qu'on a besoin d'avoir un objectif commun? Si oui, lequel? Est-ce qu'on est capable de dire ce qui nous déplaît, ce qui nous ennuie? Mais est-ce qu'on est capable de dire au fond ce qu'on veut?
Désolé d'intervenir une deuxième fois, mais je m'y sens obligé. Je crois que je me suis mal expliqué tout à l'heure. Je n'ai pas dit que pour se libérer de l'esclavage, c'était la seule solution de descendre dans la rue. J'ai voulu dire que c'était la plus efficace rapidement, la plus en égantropie, le contraire de la perte d'énergie. Ça n'empêche pas chacun d'acheter des chèvres, de faire son petit développement personnel, d'attendre d'avoir changé intérieurement. Mais moi, je pose une question, j'ai bien aimé la sienne. Si nous n'avions que 5 ans à vivre, qu'est-ce qu'on ferait? Si nous avions faim, est-ce que nous raisonnerions différemment ou pas? Le problème, c'est que nous voyons, vous connaissez la pyramide de Maslow, hein, c'est que nous sommes des classes privilégiées et que nous avons du mal à imaginer, tant que nous ne sommes pas touchés, comment ça marche quand on a faim. Eh bien, on descend dans la rue, effectivement. Alors, n'attendez pas. Bon, faites votre petit changement, faites colibri. Moi, je pense qu'effectivement, le désir de changement extérieur est proportionnel au désir de changement intérieur. Alors, effectivement, si on n'en est pas encore au stade de savoir ce qu'on veut, ben, il faut mûrir. Moi, j'ai plus de 60 ans comme monsieur, mais je suis désolé, je me sens encore jeune et je rêve encore au grand soir.
Et la rue, ça a toujours payé, la rue. Et si vous attendez, ce sera malheureusement violent, mais vous serez responsable.
Moi, je voudrais.
5 millions de personnes dans la rue aujourd'hui, non violents, intelligents.
On prend le pouvoir.
Mais moi, je voudrais. N'attendez pas, pardon.
Je pense que vous prenez le pouvoir, effectivement. On a bien compris.
Quand une loi est injuste, eh bien, il faut lutter contre, avec nos armes. On a des armes. La non-violence, certes, mais la désobéissance civile. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait le premier fauchage d'OGM à Saint-Georges-l'Espérance en 1997. Hein? À ce moment-là, j'étais responsable de la Confédération paysanne Rhône-Alpes. Donc, c'est moi qui ai dit « Allez les gars, on fauche ».
J'ai fait partie de ces jeunes agriculteurs qui, en 1960, dans les années 60, ont passé mon brevet professionnel agricole. Et pour avoir mon brevet professionnel agricole, eh bien, j'avais appris la chimie, l'agriculture chimique. Mes collègues paysans disent « on fait pas de l'agriculture chimique, on fait de l'agriculture conventionnelle ». Moi, je dis de l'agriculture chimique aujourd'hui, parce que le mot « conventionnel » a déjà été détourné. Puisque ça serait quelque chose qui est fait conventionnellement depuis des millénaires, ce qui n'est pas le cas. L'agriculture chimique n'a que 50 ans d'âge. Déjà, on nous trompe sur les mots. Et moi, j'ai appris cette agriculture à l'école. Je l'ai mis en application, parce que je ne savais faire que ça. J'ai eu un accident chimique en 1984. J'ai été empoisonné chimiquement par un insecticide. Je me suis retrouvé à l'hôpital, 3 jours d'hôpital, avec une urticaire géante. Intérieur et extérieur, c'est-à-dire que ça gonflait de partout. J'ai eu la vie sauve parce que je suis parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné. Ils ont pu faire le traitement anti-poison sans avoir les résultats de prise de sang. Voilà, j'ai eu la vie sauve. Il n'empêche que depuis cette date-là, je suis handicapé, puisque depuis cette date-là, je suis impuissant. Et quand tu vis ça au jour le jour, dans ta vie intime, c'est pas toujours évident. C'est vrai que j'ai pris à l'époque plus de 50 kilos parce que dans ma tête ça fonctionnait pas toujours bien, hein, faut reconnaître. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à réfléchir autrement. J'ai eu une chance inouïe en déménageant le grenier de mon grand-père qui était décédé Je suis tombé sur un livre sur les oiseaux auxiliaires. Et j'ai découvert, par exemple, que la mésange bleue, qui est un oiseau extraordinaire, elle fait 12 500 voyages par jour. Il suffit d'avoir 3 couples de mésanges bleues à l'hectare et tu n'as plus besoin de traiter contre le charançon de la tige ou la méligette ou l'altise du colza. Le basculement de 1984 a fait que, pour moi, ça a été un changement radical, bien que j'ai mis du temps, bien que j'avais des résistances en moi. Je suis passé au sans-labour. Passer au sans-labour, pour moi, ça a été très dur, puisqu'entre je ne suis passé qu'en 1995. C'est-à-dire que j'ai mis plus de 10 ans entre le moment où j'avais décidé de changer et le moment où j'ai changé réellement. Hein? Parce que pour moi, le labour, c'était quelque chose de culturel. Quand j'étais jeune, paysan, en formation, eh bien, j'avais participé à des concours de labour. Alors arrêter de labourer, pour moi, c'était très difficile. Alors la banque, elle ne m'a pas fait de cadeau. Parce que je me suis dit tout de suite, ben, arrête de t'empoisonner. Parce que les premières victimes, je me suis aperçu, les premières victimes sont les paysans de la chimie. Et bien sûr, je me suis dit, est-ce que je vais continuer de m'empoisonner et empoisonner ceux qui ont consommé mes productions? Et mais comme j'avais construit, pendant que j'étais agriculteur chimique, une porcherie de type industriel, je ne pouvais pas la déconstruire. Voilà. Et alors le Crédit Agricole, eh bien, il m'a empêché d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de, puisqu'il fallait que je continue de rembourser mes prêts de porcherie industrielle. Eh bien, il m'a empêché de passer en agriculture biologique. Hein, et j'ai jamais pu y passer. Mais j'ai fait un certain nombre de choix. C'est-à-dire que ben, je me suis mis à travailler avec les insectes, les oiseaux. Alors, ce qui m'a permis d'éradiquer plus d'insecticides sur l'exploitation. Je m'étais fait empoisonner par un insecticide, plus d'insecticides sur l'exploitation. Je suis arrivé à réduire des 2/3 les fongicides. Je suis arrivé à diminuer de 80% les herbicides. Et je suis passé, en 84, j'avais épandu 700 kg d'engrais chimiques à l'hectare. L'année de ma retraite, il n'y a pas bien longtemps, je n'en ai épandu que 60 kg à l'hectare, en gardant les mêmes rendements que mes voisins. En 84, j'ai basculé du mot exploitant agricole au mot paysan. Je suis devenu un paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays.
On avait deux chercheurs, un sociologue et une psychosociologue, qui étaient partis sur une enquête sur les grands sociotypes américains. Et la question de départ, c'était comment les Américains se partagent entre les deux sociotypes repérés à l'époque, qui étaient le modèle moderniste et le modèle traditionnaliste. Hein, Reagan Bush d'un côté, et le phénomène plus moderniste de type Clinton de l'autre côté. Et puis effectivement, ils ont découvert à cette occasion qu'il y avait toute une partie de leur échantillon qui n'entrait pas dans les cases. Mais comme il y en avait quand même beaucoup, hein, puisqu'il y avait un noyau large du quart de leur échantillon, de 25%, et sous l'influence de la femme, qui est elle psychosociologue, Sherry Anderson, qui a dit à son collègue, plutôt que de considérer que ce sont des gens qui ont des attitudes contradictoires, c'est peut-être l'émergence d'un nouveau modèle socioculturel. Ils ont été réinterrogés spécifiquement ces 25% qui ne rentraient pas dans les cases. Et là, non seulement ils ont découvert que ces gens-là n'étaient pas contradictoires, mais qu'à la différence aussi bien des modernistes que des traditionalistes, il y avait beaucoup plus de cohérence entre leurs valeurs et leurs pratiques que dans les autres modèles. Ils avaient repéré des changements de posture dans le rapport à l'écologie, un changement de posture dans les rapports entre hommes et femmes, un changement de posture dans le fait que c'était des gens qui étaient beaucoup plus dans l'être que dans le paraître, dans une forte implication sociale. C'était à la fois des individus qui assumaient leur singularité, mais qui étaient complètement dans la reliance. Et puis, c'était aussi des gens qui avaient une recherche de sens, une dimension spirituelle affichée, mais qui pour autant ne rentrait pas du tout dans des cadres religieux. Mais à ce moment-là, s'est posée une question tout à fait décisive, qui était: comment se fait-il qu'un phénomène aussi énorme reste à ce point invisible? Et c'est là qu'ils ont mis en évidence deux hypothèses de travail. L'une, c'est que du côté de l'establishment, il n'y avait pas besoin d'aller en quelque sorte censurer ce phénomène, parce que les cadres mêmes de représentation de l'establishment, qui étaient modernistes ou qui étaient traditionnistes, faisaient que tout ça était impensable. Donc c'était inentendable par les acteurs de l'établissement. Mais deuxième partie de l'hypothèse, c'est que quand ils allaient demander à ces cultural creatives, traduit en français par créative culturelle, mais avec le risque de malentendu, parce que derrière ça, on comprend bien que ce sont des postures de vie plus générales et que ce n'est pas simplement les acteurs du milieu culturel. Hein. Bon. Donc, quand ils allaient revoir ces créatifs et qu'ils leur posaient la question: avez-vous le sentiment de faire partie d'un nouveau courant socio-culturel très important? Là, les gens écarquillaient les yeux en disant: première nouvelle, nous, on se sent hyper minoritaires, marginaux, etc. Et là où l'enquête les situait entre un noyau dur de 12% et un noyau large de 25%, eux, ils se voyaient plutôt entre 2 et 4%. Et donc, les deux effets cumulés faisaient qu'il n'y avait pas non plus une énergie du côté de ces cultural créatives qui leur permettent d'affirmer par eux-mêmes une force, pas au sens de rapport de force, mais au sens de dynamique de force, puisqu'ils intériorisaient paradoxalement l'ancien modèle. C'est-à-dire, leurs pratiques, elles avaient complètement bougé, mais leur représentation sociétale, elle était restée du côté de l'ancien modèle. Et du même coup, on comprend bien que l'une des grandes questions, c'est à la fois la reliance et la pleine conscience par ces cultures créatives de leur force. Et donc, si on repère cela, ben c'est exactement votre expérience. C'est-à-dire, tout d'un coup, des personnes qui pouvaient être intéressées par tel ou tel phénomène. Alors, les uns s'intéressent au commerce équitable, vous vous intéressez aux semences, d'autres vont s'intéresser à la permaculture, d'autres vont s'intéresser à la finance solidaire, etc. Comme si c'était des objets intéressants, mais où on restait extérieur. Et là, tout d'un coup, on dit: mais nous en sommes. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent eu l'expérience, par exemple, dans des réunions publiques, où je parlais de ça, je me mettais à raconter cette histoire, je sentais tout d'un coup une vibration avec la salle, et les gens étaient en train de se dire: mais alors, si c'est vrai, nous en sommes.
Un monde vécu. Avec Guy Kessler, Marc Van Overscheld, Josine Cardon, Denis Parkinson, Claude Reiner, Marie Collinet, Alex Lejeune, Suzanne Hinz, Paulus Brun, Patrick Vivré et Gérard Boineau. Réalisation, Yves Robic et Claire Gatineau. Montage, Ariane Mellet. Mixage, Jeanne de Barcy. Musique, Patricia et Osvaldo Hernandez-Napoles du groupe Quilombo.